RTVFM présente Faut qu'on en parle, une émission réalisée en partenariat avec la COV et la ville de Carpentras dans le cadre du programme Linux, limiter l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans votre émission Faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous allons aborder un enjeu majeur pour notre jeunesse et notre territoire, la lutte contre les conduites addictives et les trafics de stupéfiants impliquant des mineurs et plus précisément les risques que cela représente, notamment sur les risques pour la santé, le risque routier ou encore pénal. Cette émission est réalisée dans le cadre du programme LIMITS, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants. Un projet sélectionné suite à l'appel de la MILDECA, mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives, lancée en 2024 et pour lequel la COV, communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin, et la ville de Carpentras ont été retenus. Il s'agit donc d'un programme d'action expérimentale qui vise à se déployer sur 3 années jusqu'en 2027. Ces actions donc ciblent prioritairement les quartiers des Amandiers, Éléphants, Sablières et celui du bois de Lubac à Carpentras et vise aussi à proposer un accompagnement et des actions de prévention concrètes à la fois auprès des jeunes concernés et de leurs familles. Et donc c'est tout l'objet de notre émission radio aujourd'hui. Dans ce numéro Faut qu'on en parle, nous allons donc donner la parole aux jeunes des Amandiers et du bois de Lubac. Ils sont invités à s'exprimer librement sur la question des addictions. Et nous recevons donc autour des micros Naïm, Noam et Maïlis. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu déjà présent pour participer à cette émission. Et pour encadrer d'ailleurs cet échange et pour décrypter les dangers pour la santé, les implications pénales ou encore les risques routiers, nous accueillons autour des micros un acteur majeur de la prévention et de l'accompagnement sur notre secteur. C'est Bernard Bertrand, coordinateur général Vaucluse, donc à l'association Arca Sud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu aussi présent. Alors justement, avant de commencer un petit peu cette émission, est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre rôle au quotidien ?
Alors, l'association Arca Sud, qui est implantée depuis 3 ans sur la région PACA, a 2 grandes missions. La première qui est l'appui aux professionnels sur les questions d'addiction. Donc souvent les professionnels sont assez démunis sur cette question-là quand ils ont une situation, un jeune ou un adulte bien sûr, avec une problématique d'addiction. Donc nous on est là pour les accompagner dans leur prise en charge, donc les médecins bien sûr, les infirmiers, les travailleurs sociaux, etc. Et la deuxième mission, c'est la coordination de parcours. Souvent, dans une prise en charge, il y a beaucoup de professionnels qui interviennent autour d'une situation. Et souvent, ces professionnels n'ont pas de lien entre eux. Et notre rôle, c'est un peu de mettre en musique ce parcours pour éviter ce qu'on appelle des ruptures de parcours de santé.
Merci. Alors justement, pour lancer un petit peu cet échange, je vous propose d'écouter un court extrait audio pour un petit peu planter le décor de cette émission.
J'ai commencé très tôt, à 13 ans je fumais déjà le cannabis, j'ai commencé à 15 ans à l'héroïne, j'ai commencé la cocaïne derrière.
La drogue en fait, il y a quelqu'un qui l'a fumé devant moi, fumé sur la lune, et ça sentait bon le caramel en fait. Et c'est là comme je fumais déjà le joint, j'ai voulu tester en fait, et je suis tombée vite fait dedans comme ça.
J'ai 27 ans en juillet, j'ai commencé la drogue à 18 ans, à 15 ans le cannabis et à 18 ans les drogues dures tout type quoi. Je suis revenu accro à la cocaïne et au cannabis, forcément, et à l'héroïne.
Où j'ai perdu femme, voiture, maison, boulot, à cause de ces produits et voilà, ces addictions.
Et alors justement, pour un petit peu commencer cette émission, est-ce que certains d'entre vous se sont déjà reconnus dans cette introduction que nous venons d'entendre ? Et pour commencer, est-ce que c'est essentiel selon vous qu'on aborde ce sujet des risques aujourd'hui sur l'antenne d'RTVFM ? Qui souhaite prendre peut-être la parole parmi vous trois, donc Naïm, Noam et Maïlis, pour réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Ben, moi, je peux prendre la parole. Moi, personnellement, je ne me suis pas reconnu dans ce passage qu'on a écouté. Mmh. Et c'est quelque chose d'essentiel. Ça sert de prévention. Il y a certaines personnes qui peuvent y réfléchir à 2 fois en entendant ça. Et voilà.
Donc tu penses que c'est utile aujourd'hui qu'on l'aborde sur l'antenne ?
Voilà, c'est ça. Ouais.
Pour Maïlis, pour l'une d'entre vous, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vous venez d'entendre ?
Moi, je pense que c'est plutôt de la prévention. Personnellement, je me suis reconnue sur une seule. Mmh. C'est-à-dire perdre quelque chose qu'on aime ou quoi que ce soit. Une passion ou quoi que ce soit, ça se perd à cause de ça.
Alors, on a à côté de nous donc un professionnel qui va peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus justement sur l'impact le plus direct sur l'individu, la santé. Le cerveau, souvent, quand on parle des adolescents, est encore en construction. Pouvons-nous détailler peut-être l'impact réel et durable de certaines consommations sur le développement cognitif, la mémoire ou même l'équilibre peut-être psychique ?
Comme vous disiez, le cerveau des adolescents est en pleine maturation jusqu'à, alors on dit 21-25 ans à peu près. Et donc les risques sont ici. Alors je vais souvent parler du côté baba cool, notamment sur le cannabis, sur le côté baba cool. En fait, le côté je trouve la vie sympa, j'ai rien envie de faire, je vais plus à l'école, je vais plus voir mes potes, etc. En fait, c'est les conséquences en fait de la consommation de produits. Alors c'est le cannabis, mais c'est pareil, la consommation, quel que soit le produit, aura des conséquences de toute façon sur le cerveau du moment qu'il n'est pas terminé. Voilà.
Il faut insister sur le côté que ce n'est pas c'est grave justement quand on le prend jeune finalement. Hein, c'est assez important. C'est, on est vulnérable à cette période.
C'est vulnérable, donc ça peut avoir on peut avoir des séquelles, mais il y a le côté c'est qu'on on est aussi plus tard, plus à même de développer un comportement addictif, justement.
Et alors, justement, la désinformation est un vrai danger pour vous, les jeunes qui êtes autour des micros. Est-ce que vous mesurez un petit peu le risque lié aux produits qui circulent dans les quartiers, par exemple là où vous habitez au quotidien? Est-ce que s'ils sont coupés, s'ils ont des substances inconnues ou très dangereuses, on ne sait pas forcément en fait, ce qu'il y a à l'intérieur?
C'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je pense qu'on ne se pose pas la question. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose on sait qui n'est pas bon. Quoi qu'il y a à l'intérieur, à quoi il est coupé.
Et alors justement, est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec ce que vous entendez?
Je suis complètement d'accord, parce que je pense que dès qu'on va chercher quelque chose, ou même on a acheté par exemple, par pur exemple, on se renseigne pas. Et je trouve ça dommage. Et je pense que même ceux qui vendent ne savent pas ce qu'ils vendent.
Monsieur Bertrand, est-ce que vous entendez là? Vous l'avez déjà entendu?
Oui, oui. Alors, les produits, déjà, quand on sait pour certains produits comment ils sont fabriqués, ça fait un peu peur. Et souvent, en fait, plus il y aura un intermédiaire, plus le produit va être coupé, en fait. Plus, puisque chaque vendeur, dealer, va vouloir faire sa marge. Donc, à chaque fois, il va le couper. Donc, plus on aura un intermédiaire entre l'origine du produit et l'arrivée sur le terrain, en fait, plus il sera coupé. Et le coupage, ça peut être des choses. Des fois, le produit qui est coupé peut être des fois plus dangereux que le produit stupéfiant au départ, en fait.
Est-ce qu'un produit coupé, justement, aujourd'hui, c'est majoritaire ce qui circule?
Sur la cocaïne, aujourd'hui, on est sur des produits qui sont assez purs, parce qu'en fait, la cocaïne est tellement présente aujourd'hui que les dealers ne prennent plus aujourd'hui, ne s'embêtent plus à le couper, parce qu'en fait, il y en a tellement qu'en fait, ils ne s'embêtent plus à la couper. Les autres produits sont toujours coupés, bien sûr, mais oui, la cocaïne, elle est de plus en plus pure, en fait.
Et alors, on va leur poser un petit peu la question aussi, est-ce qu'ils font la différence? Est-ce que selon vous, il y a de bonnes ou de mauvaises drogues, ou de bons ou de mauvais produits psychoactifs?
Honnêtement, je pense qu'il y en a des bons, parce qu'il y en a qui soignent ou qui font disparaître la douleur, notamment par exemple la fibromyalgie. Le cannabis m'a beaucoup aidé, bizarrement. L'eczéma aussi, je ne savais pas du tout.
Alors, est-ce qu'il y a de bonnes drogues, justement, M. Bertrand?
Alors, je vais être beaucoup plus peut-être radical. Il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises drogues. C'est les modes et les contextes de consommation qui rendent le produit dangereux.
Après, il y a plusieurs, drogues, c'est-à-dire il y a de la légale et pas de la légale.
Et alors justement, vu qu'on parle de légale et pas légale, M. Bertrand a peut-être la réponse, justement. Je crois que sur la conduite, ça, on parle de CBD, notamment, tu entends par ça,
oui.
CBD.
Alors,
merci
sur
un petit peu tout ça.
Sur la dangerosité, ce n'est pas les drogues illicites qui sont les plus dangereuses, en fait. En fait, la drogue, pour juste résumer, la drogue la plus dangereuse, c'est l'alcool, de toutes les drogues. C'est l'alcool, au niveau santé, social, etc., c'est l'alcool. Après, on en revient sur la question du CBD qui est légal. Le CBD est légal, mais à l'intérieur, l'Europe a autorisé jusqu'à 0,3% de THC et le THC est illégal. Donc en fait, consommer du CBD peut vous faire perdre votre permis de conduire.
Et est-ce qu'il y a assez d'informations justement à ce niveau-là? On ne fait pas trop la différence? Je pense que beaucoup de personnes ne font pas la différence.
Je pense que ce n'est même pas du tout un fond. Nous, on fait beaucoup de formations, même auprès des professionnels, personne ne sait en fait.
Est-ce que tu es assez d'accord avec ce que tu viens d'entendre?
Ouais, moi personnellement, je suis assez d'accord après ce qu'a dit monsieur.
Tu étais assez d'accord aussi qu'il y avait des bonnes ou de mauvaises drogues ou pas?
Bah,
ou qu'il n'y en avait pas finalement?
Non, pour moi non. Pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises drogues. Parce que, en fait, ça dépend. C'est par rapport au point de vue. Aussi, ça peut être par rapport au point de vue économique au niveau de l'État. Pour eux, l'alcool, c'est pas quelque chose qui est illicite. Pourtant, ça fait plus de ravages que le cannabis ou n'importe quelle drogue.
Et alors, est-ce que selon vous, c'est quoi justement un comportement addictif? C'est quand on peut pas s'en passer?
Bah, pour moi, un comportement addictif, c'est un comportement où même si on est en situation financière instable, on va tout faire pour aller se procurer sa drogue, que ça soit de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne. On est même prêt à s'endetter, à casser des liens avec certaines personnes à qui on doit de l'argent. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là où on est addictif, où on est obligé de la prendre tous les jours, peu importe la situation.
C'est ça. Moi, je vois ça, comme a dit monsieur, et aussi comme une routine. C'est-à-dire chaque jour, chaque heure, chaque... Peu importe, en fait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et alors, est-ce que vous faites la différence entre, finalement, il y a une frontière entre le plaisir et plutôt le côté addictif, la dépendance?
Ben moi, plutôt quand j'en prends, c'est quand je vais pas bien. j'ai suivi le chemin de ma mère et j'en suis pas très fière.
Monsieur Bertrand, par rapport à ce que vous venez d'entendre.
Il y a trois raisons, on le sait aujourd'hui, il y a trois raisons pour lesquelles on va consommer des drogues, alors des produits psychoactifs. Il y a le côté plaisir, qui est une réalité, il faut le dire. Prendre une drogue au départ, c'est quand on va boire un verre d'alcool entre amis, c'est parce que ça, derrière, ça amène du plaisir. Quand on fume sa cigarette, celle du matin, celle du café, celle avec la bière, elle amène du plaisir. Donc c'est une des raisons.
Si on le prend finalement régulièrement, est-ce que c'est pas une dépendance? Si on le prend chaque jour?
Pas obligatoirement. Donc juste pour finir, donc la deuxième raison, c'est le côté thérapeutique. Comme je disais, on ne se sent pas bien, donc on va prendre un produit pour résoudre son mal-être, on va dire. Et le troisième, c'est le côté social, c'est de faire comme les amis, c'est on est en groupe, etc., etc. Après, la question de l'addiction, donc faut juste rappeler que l'addiction, c'est une maladie, avant tout. Donc c'est le mot important, si on doit retenir qu'une chose, peut-être de toutes les choses, c'est que l'addiction, c'est une maladie. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas tout ce qu'on peut croire, hein, donc c'est une maladie. Donc c'est pas la faute, c'est pas une histoire de volonté, c'est pas une histoire de t'avais pas qu'à commencer. Beaucoup de gens consomment et ne sont jamais addicts. Pour revenir sur la routine, on peut avoir des personnes qui vont consommer tous les jours, qui vont à la même heure, la même quantité, et qui ne viendront jamais addicts. C'est la difficulté de l'addiction, c'est ça, c'est qu'en fait c'est pas la consommation. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, le facteur social, le facteur de ce qu'on est au moment, disons au niveau santé, l'éducation, etc. C'est là qui rentre en jeu. Ce qui rend l'addiction très compliquée, c'est ça en fait, c'est que on peut être un gros consommateur et de jamais devenir addict.
Mais alors justement, on commence forcément par du plaisir avant d'être addict, ou pas?
Pas obligatoirement. Alors ça dépend de ce qu'on va appeler le côté plaisir. Par exemple, une personne qui va prendre un produit pour pallier à une souffrance, est-ce que c'est du plaisir? Peut-être pas. C'est-à-dire qu'il va prendre pour pallier à un mal-être. Donc on n'est pas dans le plaisir. Mais souvent, le cannabis ou les autres drogues, au départ, oui, souvent, dans la plupart du temps, on va commencer par la recherche de plaisir ou le côté social. Alors les trois sont mêlés, hein. Ça peut être du thérapeutique en même temps, du plaisir, etc. Mais au départ, il y a quand même un peu de plaisir quand on prend un produit.
Alors justement, je vais revenir un petit peu aux jeunes. Est-ce que pour vous, il y a une limite justement dans l'expérience du plaisir? Alors je vais préciser, hein, où est-ce que vous placez le curseur? Donc c'est est-ce que le corps et le cerveau s'habituent à la substance? Par exemple, est-ce que si vous avez déjà pris de la drogue, est-ce que pour retrouver le même niveau de plaisir ou d'effet que la première fois, vous avez dû augmenter les doses? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû faire? Est-ce que vous êtes dit non, il ne faut pas que je dépasse cette dose parce que j'ai trop d'effets secondaires après?
Moi, je pense qu'on s'en rend compte au début. Mais je pense que dès qu'on est dans le jus, on ne se pose pas vraiment la question, dans le sens où on veut peut-être tester ou aller plus vite, enfin, savoir un peu ce que ça va faire, quoi. Donc au début, on ne sait pas, et c'est après qu'on s'en rend compte.
Alors justement, est-ce que pour vous, c'est important de connaître les limites, les risques et les lois? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes tous au courant autour de la table?
Pour moi, les limites, c'est quelque chose de, comment dire, qui n'est pas général, parce que...
Est-ce que toi, tu as des limites? Tu te fixes des limites?
Moi, personnellement, je ne suis pas consommateur. Donc après, ça dépend dans quelle limite vous voulez parler. Mais il y a des limites pour tout, comme par exemple dans le sport. On doit parfois se reposer pour éviter une fatigue musculaire. Pour moi, pour la drogue, c'est exactement la même chose.
D'accord. Et est-ce que donc toi, tout ce qui est loi et tout ça, tu fais attention un petit peu ou pas forcément? Tu es au courant en tout cas des lois, tu les connais?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pour les autres autour de la table, est-ce que vous faites attention? Est-ce que c'est important justement de connaître déjà les limites et vos limites dans les deux sens finalement?
Les limites, oui, c'est important. C'est surtout le corps qui parle. Donc, c'est après la dose, effectivement. On voit comment le corps réagit, on prend peur. Et c'est là où on se rend compte, du coup, des limites du corps.
Monsieur Bertrand, par rapport à ce que vous venez d'entendre, est-ce que finalement, est-ce que c'est important qu'ils connaissent leurs limites et les limites, les lois aussi?
Alors, c'est important les limites, mais en fait, quand on est ado, en fait, c'est là où on essaye de dépasser. On va construire ses limites. C'est à un moment donné, c'est parce qu'on va aller au-delà de ce qu'on est capable qu'on va se fixer des limites. Donc c'est compliqué quand on est adolescent de les fixer tant qu'on n'a pas passé outre cela. Après, connaître les lois, c'est important. En fait, le travail qu'on mène, nous, c'est connaître tous les... Le côté, nous, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est de connaître tout ce que ça entraîne au niveau de la santé et au niveau de la justice. Et quand on consomme, qu'on le fasse en connaissance de cause avec les risques que ça peut engendrer derrière.
Où est-ce que vous trouvez l'information la plus fiable si on parle de drogue et de leurs risques, par exemple? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà entendues? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu?
Comme on dit, ça dépend de tout.
C'est à l'école, c'est auprès de professionnels que tu as pu l'entendre aussi, peut-être, ou pas?
Oui, souvent à l'école, par rapport aux professionnels, les spots publicitaires aussi. Aussi, après, on peut qualifier ça comme une drogue, mais par exemple, la cigarette, il y a des drogues où il y a écrit directement peut-être les effets indésirables. comme la cigarette, il y a écrit « fumer tue » dessus.
Ça a eu un impact pour toi ?
Bah, pour moi, non, pas personnellement, puisque j'ai jamais été attiré. Mais ça peut avoir un impact, ça peut être, entre guillemets, répulsif par rapport à certaines personnes, oui.
Est-ce que pour les autres autour de la table, justement, les petits logos que l'on voit sur les paquets de cigarettes ou peu importe, est-ce que pour vous, ça peut avoir un impact ?
Sur les cigarettes, oui. Comme on dit, il y a marqué « fumer tue ». Et il y a une petite image qui est honnêtement pas très agréable à regarder, ça donne pas envie, surtout quand on voit les dégâts que ça peut faire.
Donc si on te proposait du cannabis et qu'il y avait écrit « fumer peut porter des risques » ou etc., est-ce que toi ça aurait un impact finalement ou est-ce que tu le consommerais forcément ?
Avant, je ne me serais pas posé la question parce que je voudrais d'abord avoir un avis moi-même, mais après oui, effectivement.
Et alors, Monsieur Bertrand, justement, est-ce que les spots de sensibilisation ont un impact ? On suppose que s'il y en a, c'est qu'ils ont quand même un impact.
Oui, il y a un impact, je vous assure, le tabac est une drogue, juste pour confirmer. Oui, oui, ça a un impact, le paquet neutre, le fait qu'on ait interdit tout ce qui était à base de menthol, le goût, etc., les cigarettes allégées, tout ça qui était en fait du commerce, hein, en fait, pour attirer les jeunes, ça a un impact réel. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a une diminution depuis 2 ans, en tout cas chez les jeunes. On a les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des conduites addictives qui montrent qu'il y a une diminution des consommations chez les jeunes depuis 2 ans. Donc ça commence à porter ses fruits.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va marquer une très légère pause musicale dans le cadre de cette émission « Faut qu'on en parle ». On rappelle le sujet, donc c'est notamment tout ce qui est risque pour la santé, risque routier ou pénal, dans le cadre donc bien sûr des conduites addictives. On se retrouve dans quelques minutes sur l'antenne d'RTVFM. À tout de suite.
Vous écoutez RTVFM, la radio locale de Carpentras en DAB+.
Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi ? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là ?
Oh ça va, tu vas pas nous gonfler.
Qu'est-ce qu'il y a Guy, si t'as quelque chose à me dire ?
Bah hier t'étais pas bourré.
Ouais, t'étais pire.
Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Merde, ma caisse!
Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi!
T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba!
J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges!
Et en plus,
surprise!
Dans ton lit, ça bouge!
Sur Skoolaman, t'as été un homme!
T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon!
T'as du style, t'as du style, t'as du style, et mon frère!
Quand tu vois d'autres, tu ramènes dans la bombe nucléaire!
Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers!
La tête dans le cul, cul dans le brouillard!
Les gars, désolé pour hier!
D'avoir fini à l'envers.
Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière.
Fille remercier 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de cahier, de saké.
T'as l'œil, il part en vrille.
Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire?
Fallait mani, 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 et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, 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 et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave.
Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas, les gars.
Bah, t'étais grave, hein.
T'as pété ton câble.
Souviens-toi.
Eh oh, t'es monté sur le chapiteau.
Accroché au cordage,
t'as failli t'aplatir comme un blaireau.
Eh oh, tu voulais pas redescendre.
Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre.
Désolé pour hier soir,
d'avoir fini à l'envers.
La tête dans le cul, cul dans le brouillard.
Les gars, désolé pour hier.
Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers.
Promis, demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière.
Donc fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé,
dans ton canapé, on est bien.
À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier.
Eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau?
C'est la nif fatidique, allez, on va se taper l'apéro.
Eh oh,
allez, mani, mani, bouge tes fesses. T'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses.
Ben, désolé pour ce soir, si je finis à l'envers,
Mali, on se retrouve au comptoir.
Titi fête son anniversaire.
Et désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Après celle-là, j'arrête de boire. Laissez-moi juste la dernière.
Désolé, Mali, 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 et mieux la nuit, man.
Arrête l'alcool, tu deviens grave.
La tête
Allez, de retour dans l'émission Faut qu'on en parle, où on aborde donc un enjeu majeur pour notre jeunesse aujourd'hui et notre territoire, la lutte contre les conduites addictives et les trafics de stupéfiants impliquant notamment des mineurs. Et on essaye donc aujourd'hui de vous présenter les différentes parties, donc notamment les risques que cela représente, notamment sur les risques pour la santé, le risque routier ou encore pénal. Et pour en parler, nous sommes toujours avec notre professionnel Bernard Bertrand, coordinateur général Vaucluse à l'association Arca Sud. Rebonjour. Et nous avons à nos côtés trois jeunes aussi, c'est Noam, Benjamin et Naïm, qui sont donc autour des micros. Alors, pour continuer un petit peu cette émission, on va maintenant, monsieur Bertrand commencer par aborder un petit peu l'aspect plus structurant pour l'avenir, la partie justice. Alors, quelle est la ligne rouge qui, pour un mineur, fait basculer de l'usage simple aux poursuites pour le trafic ?
Alors, l'usage simple pour la loi, c'est de dépanner. Alors, la loi va être la même au niveau de ce qu'on appelle du trafic, mais après la réponse pénale peut être différente différents niveaux. La loi ne fait pas de différence entre dépanner d'une boulette de shit ou de donner un joint à un camarade. Pour la loi, ça s'appelle du trafic de drogue. Ou de vendre un kilo d'héroïne, machin. Pour la loi, c'est la même chose, c'est du trafic de drogue. Après, bien sûr que la réponse pénale, le juge va répondre différemment, mais pour la loi, voilà.
Noam, Benjamin, Naïm, est-ce que vous saviez justement que peu importe la quantité, finalement, juridiquement, ça avait un impact ?
Pas au courant, moi.
Pas du tout ?
Bien sûr, moi.
Tu étais au courant ?
Non, moi j'étais au courant, moi.
Et est-ce que vous saviez justement ce qu'on risque ? Potentiellement, si on te contrôle avec un petit peu, pas beaucoup, qu'est-ce que tu sais ou pas ?
De ce que je sais en tout cas, c'est que les risques pénaux pour les mineurs sont moindres que quand on est majeur, ce qui peut inciter plus facilement un mineur à vendre ou à consommer ce genre de substances, contrairement à un majeur qui pourrait rentrer en prison. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même une différence.
Monsieur Bertrand, est-ce qu'il y a une différence justement si on est majeur ou mineur ?
Oui, il y a une différence. Après, c'est pareil, ça va être de dépendre de quoi on parle quand on parle de trafic de drogue. Après, souvent, le mineur, il n'est pas engagé sur du trafic, il ne va pas être condamné pour 3 tonnes de cannabis, etc. Il va être sur du trafic local, et en fait, souvent, il ne trafique même pas. On est souvent sur il va surveiller le quartier, il va avertir l'avenue de la police. Il n'est pas impliqué directement souvent dans le trafic. Après, oui, le mineur, ils sont utilisés aussi. C'est parce qu'il y a moins de risques pour eux que pour un majeur.
Peu importe finalement aussi la drogue, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de drogue, mais peu importe la drogue aussi, l'impact est le même ou pas ? Est-ce qu'on différencie les drogues ou pas du tout ?
Non, il n'y a pas de différencie. Alors après, tout dépend. En fait, les politiques varient d'un parquet à un autre. En fait, la justice n'est pas appliquée en fait, sur le territoire au niveau équivalent. Ça va dépendre des périodes, c'est-à-dire que là, on a eu un ministre de l'Intérieur qui était très répressif sur les consommations, donc on avait peut-être plus d'interpellations, plus d'autres choses, en tout cas plus de visibilité en matière de communication. Le cannabis, c'est quand même la drogue qui pose, en tout cas aujourd'hui, qui pose le plus de problèmes, en tout cas dans les quartiers, ou même plus dans les quartiers aujourd'hui, un peu de partout, hein, même en milieu rural, etc. En tout cas, c'est cela qu'on voit ou qui peut poser problème, etc. Mais après, il n'y a pas vraiment de différence. Un stupéfiant reste un stupéfiant pour la loi.
Monsieur Bertrand, je continue avec vous. Justement, comment est-ce que vous repérez, vous, en tant que professionnel, parfois, très tôt chez un jeune, comment on repère qu'il s'engage sur une mauvaise pente, finalement ? Est-ce que ça se voit de suite ou pas forcément ?
Alors, nous, directement, ça va être compliqué. Souvent, ça va être via des professionnels. Alors, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être les éducateurs de quartier, ça peut être les associations où le jeune va. Nous, directement, c'est en fait... Nous,
les parents aussi, on oublie.
Ça peut être les parents, bien sûr, les parents, les tuteurs, les éducateurs, etc. Nous, en tout cas, au niveau de notre travail, nous, on voit des gens qui sont dans des addictions... bien installés, donc c'est pas les mineurs, on les voit pas trop dans nos structures en fait.
On va revenir sur les jeunes qu'on a autour des micros, donc je rappelle Noam, Benjamin et Naïm. L'argent facile donc est souvent une tentation. Est-ce que pour vous le risque d'aller en prison ou le risque d'avoir un casier judiciaire qui ferme toutes les portes professionnelles, c'est un frein suffisant pour vous, hein, à titre individuel aujourd'hui ?
Moi honnêtement je pense pas dans le sens où le trafic de stupéfiants en France en tout cas implique de nombreux jeunes. Ça implique un nombre quand même conséquent de personnes qui pourraient tomber dans ce genre de vice, je dirais. Donc c'est un frein pour certains, mais je pense pas pour d'autres. Comme je disais auparavant, les mineurs qui sont moins impactés par la loi que quelqu'un qui est majeur et qui aurait risque de rentrer en prison. Donc je pense que c'est un frein, mais il faudrait trouver de nouvelles solutions pour pallier de manière plus stricte à tout ça.
Naïm ?
Pour moi aussi, je pense pas que ça soit un gros frein. parce que il y a de plus en plus de jeunes même et de plus en plus jeunes qui s'y mettent au trafic de drogue. Je pense qu'il faudrait trouver d'autres solutions. Peut-être être plus proche aussi des jeunes, pas tout le temps les incriminer, pas aussi savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça, pas tout le temps leur taper sur les doigts parce qu'ils font ces choses-là. Il y en a certains qui font ça par besoin, parce qu'ils sont pas entendus, parce qu'ils ont pas les fonds nécessaires pour vivre dans la vie de tous les jours. Parfois, c'est même eux qui ramènent l'argent à la maison parce que les ressources des parents sont pas suffisantes. Donc, je pense que d'abord, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça. Est-ce qu'ils ont été forcés ou pas, parce que c'est quelque chose qui existe. D'abord, chercher la pédagogie de pourquoi avant de taper sur les doigts.
Est-ce que c'est un constat, justement, ces dernières années, M. Bertrand, où c'est de plus en plus des jeunes, des très jeunes?
On a une loi qui date de 1970, hein, qui c'est la loi qui est appliquée aujourd'hui en France, toujours appliquée en France. Le constat est toujours le même depuis 1970. Donc, que ce soit chez l'adulte ou chez les ados, aujourd'hui, c'est un peu plus visible parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui se sont mêlés à ça. La drogue est beaucoup plus accessible aujourd'hui aussi via les réseaux sociaux. Alors, on parle souvent dans les médias de ce qui se passe dans les quartiers via la télévision. Mais aujourd'hui, 90% du trafic se fait via les réseaux sociaux. Les gens, ils sortent même plus dans les quartiers pour acheter leur drogue. Ils se la font livrer directement chez eux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau.
On va rebondir parce que je vois qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Hein. On a Noam, Benjamin, Naïm qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'ils viennent d'entendre. Est-ce que ça se fait forcément sur les réseaux?
Moi, pour ma part, de ce que je vois en tout cas, il y a beaucoup de drogue qui peut circuler sur les réseaux. Cependant, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticents à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas forcément confiance. Alors que, par exemple, ce jeune qui va aller au quartier, il sait qu'il n'y aura pas d'arnaque et qu'il va repartir avec son produit. Donc, je dis que sur les réseaux, il pourrait y avoir ces personnes qui pourraient arnaquer plus facilement via des virements sans retour de produits et qui pourraient rendre les gens réticents à ce niveau-là, en tout cas.
Voilà, surtout aussi que quand on va voir, admettons, un dealer, il n'y a pas de données personnelles qui sont données, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'adresse. Donc, on pense qu'il y a moins de risques parce que c'est la personne ne bouge pas, c'est nous, on va au vendeur et ce n'est pas le vendeur qui vient à nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas ici, c'est plus le consommateur qui va au vendeur.
On va passer maintenant au risque routier, puisqu'il fait partie des trois risques qu'on a cités, notamment on a parlé de santé et niveau pénal. Là, on va parler de risque routier. Alors, il y a aussi un risque effectivement pénal à ce niveau-là. Est-ce que donc si on a un retrait de permis de conduire, c'est donc une sanction administrative, mais quelles sont peut-être les peines qui peuvent s'ajouter en cas d'accident corporel? Faut faire attention à tout ça. Est-ce que vous, au niveau donc de ce risque routier, vous êtes sensible?
Moi, perso, je
conduire sous l'emprise, par exemple, de produits.
Alors, je consomme pas de produits stupéfiants, mais de ce que je sais en tout cas, je sais que ce genre de drogue qui peuvent être consommées de manière journalière peut nous donner une espèce d'excès de confiance en soi qui pourrait pousser les jeunes à, même s'ils auraient consommé de la drogue, de se dire bon, je suis quand même conscient de ce que je fais et je pourrais prendre le volant, mais sans savoir qu'il pourrait y avoir des risques derrière, d'accidents qui pourraient intégrer des enfants, des mères de famille, des pères et qui pourraient tuer une famille. Donc je pense que c'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux.
Naïm, tu souhaites rajouter quelque chose?
Moi personnellement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Benjamin. C'est vrai que c'est quelque chose de dangereux. Après, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas conscience des risques ou même certaines qui ont conscience des risques et qui ne prêtent pas attention, ils ne pensent pas à ce que ça peut engendrer derrière, mais non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Benjamin.
Et alors, qu'est-ce que, justement, on risque au niveau pénal? Alors, rapidement, peut-être, on n'est pas là, c'est pas votre rôle précis, hein, mais qu'est-ce qu'on peut risquer au niveau pénal, M. Bertrand?
Perte de permis, prison et amende.
Et amende, ouais. D'accord. Et est-ce que vous étiez au courant? Oui, perte de permis, amende, prison.
Oui, ça c'est, oui, bien sûr. Des choses assez...
L'information passe assez bien à ce niveau-là.
C'est ça.
Oui.
Après, si je peux ajouter quelque chose personnellement, ça je trouve qu'au niveau de la loi et pas forcément que par rapport aux jeunes, il y a du favoritisme aussi qui est fait par rapport à certains jugements. On a eu par exemple le cas Pierre Palmade qui a consommé du cannabis, qui était sous l'emprise de stupéfiants, cocaïne, etc. Il a tué un bébé qui n'était pas encore né. On se pose la question, pourquoi est-ce que lui, il a une peine entre guillemets qui est pas représentative de ce qu'il a fait, Alors que si, par exemple, moi, demain, simple jeune, sous l'emprise de stupéfiants, je vais faire exactement la même chose avec les mêmes causes à effet, j'aurais pas le même jugement.
Alors, on va peut-être pas forcément aborder du coup le sujet ou en tout cas donner une réponse parce qu'on l'a pas forcément non plus. Voilà, on va pas faire Monsieur Bertrand peut-être.
Non, j'ai pas de réponse. Hein. La discrimination, elle est connue. Alors, on peut en parler, on pourrait faire une émission rien que là-dessus, oui. Sur plein de têtes différentes et sur la consommation de drogue également. Donc, j'ai pas de réponse puisque c'est pas nous qui condamnons.
Qu'est-ce qui pourrait motiver des jeunes aujourd'hui dans les quartiers à dire non, à ne pas tomber finalement dans le trafic ou en tout cas à faire quelque chose d'autre? Et est-ce que dans le quartier, il y aurait besoin d'avoir peut-être plus de choses pour occuper le temps, pour s'épanouir et pour éviter de tomber dans ce trafic? Est-ce que vous auriez des solutions, Naïm?
Personnellement, des solutions directes, non, je n'en ai pas. Mais comme je disais tout à l'heure, si on mettait par exemple plus de moyens pour aider les jeunes à s'en sortir dans la vie de tous les jours, si le décrochage scolaire aurait été moins fréquent, si on avait des activités à faire aux jeunes, ça je pense que ils auraient moins de temps à penser au trafic, plus de boulot, plus de sorties avec des personnes encadrées, et je pense que ça se passerait mieux.
Est-ce que la justice peut être sensible si on demande de l'aide, par exemple si on a consommé, mais qu'on demande de l'aide ou qu'on se dénonce du coup pour sa consommation? Est-ce que ça peut être considéré aussi comme une circonstance atténuante par la justice ou pas forcément?
Alors de se dénoncer pour consommation, je ne sais pas. Après, ça va dépendre aussi du parcours qu'on a avec la justice. Hein. Si on est un primo délinquant, puisque c'est le terme officiel comme ça, je dirais que oui, la justice va, elle va condamner sur des obligations de soins, notamment sur en fait par rapport à ce qu'elle a en matière de réponse, qui est notamment l'obligation de soins. Après, s'il y a récidive, en général, la justice elle est moins clémente.
Pour vous les jeunes, est-ce que vous vous sentez plus concerné par le risque d'accident de la route, donc qui touche la vie des autres, que par rapport au risque qui ne touche que soit la santé? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que vous faites une différence entre les deux?
Moi, personnellement, j'en fais une. J'en fais une parce que la personne qui va consommer des produits stupéfiants doit se dire qu'elle est un risque pour elle, mais aussi pour les autres, parce qu'on ne fait pas des accidents tout seul. Ce sont des cas assez rares. Donc il faut quand même se dire et avoir conscience du fait que faire un accident, ça n'implique pas que nous. Donc il y a vraiment une différence à faire entre nous et les personnes qu'on peut impliquer dans un accident.
Peut-être Noam, qu'on n'a pas trop entendu sur ce sujet. Est-ce que toi, tu fais une différence?
Ouais, comme il a dit, il a raison. Il faut penser aux autres. C'est les autres que... Il y a quelqu'un, il n'a rien à voir, il va rouler correctement, il respecte les limitations de vitesse, il ne fume pas. Il y a quelqu'un, il vient, il fume derrière lui, il pète dedans. Il n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut penser aux autres, il ne faut pas penser qu'à soi. C'est pas que nous qu'on met en danger quand on fume.
Naïm, est-ce que tu es d'accord avec ces propos qui viennent d'être tenus?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut penser à soi, mais pas qu'à soi. Il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aussi aux autres. Ça peut tomber sur vous qui ne consommez pas. Ça peut tomber sur moi, sur un père de famille, une vieille personne. Même avec une maman et des enfants, ça peut détruire des vies. Et ça, on s'en rend pas forcément compte.
Monsieur Bertrand, est-ce que justement c'est un discours que vous entendez auprès des jeunes, peut-être que vous avez vu aussi, croisé, où ils font vraiment une différence entre les deux sur la prise? Est-ce qu'ils sont sensibles à ce niveau-là quand ils...
Oui, les jeunes sont sensibles de ça. Après, la question, c'est d'où l'importance de la prévention, puisque une fois qu'on a consommé, souvent on fait plus le rapport entre... Comme tu disais tout à l'heure, on est tout puissant, on est Superman. En fait, déjà, quand on est jeune conducteur, souvent on se sent... invincible. Et si on rajoute en plus des produits illicites, stupéfiants par-dessus, on se croit immortel. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que derrière, il y a notre vie, il y a ceux qui ont aussi à côté de nous, nos potes, en fait, et ceux qu'on risque de bunier, des familles, comme tu disais, des familles, des parents, des enfants.
On arrive presque au terme de l'émission, il nous reste encore quelques petites questions. Pour vous, quel est le plus grand risque que l'on prend à consommer des substances psychoactives au-delà de ce que dit la loi ou la médecine? Est-ce que c'est le risque de perdre le contrôle de votre vie, de décevoir sa famille?
Moi, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses qui fait que, par exemple, décevoir sa famille pourrait en être une. Mais après, il n'y a pas que ça. C'est souvent l'endettement, les effets secondaires qui peuvent nous ralentir dans notre vie active, qui nous rendent un peu flemmards, on va dire. Ça, franchement, c'est quelque chose que je trouve assez grave, personnellement. Parce que les jeunes, maintenant, fument de plus en plus tôt, de plus en plus. Et donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important.
Monsieur Bertrand, pour terminer, quel est le message un petit peu d'espoir que l'on pourrait donner, et de prévention, espoir et de prévention, que vous souhaitez laisser aux jeunes qui nous écoutent autour de la table et bien sûr en radio, et qui se reconnaîtraient peut-être dans les témoignages que l'on vient d'entendre aujourd'hui?
Alors que, comme souvent les ados de toute façon vont tenter à tester leurs limites, et la consommation de drogue en fait partie, hein, c'est que toute consommation n'entraîne pas obligatoirement une addiction, et la majorité des ados arrêtent d'eux-mêmes.
Il y en a qui vont jamais tester, tout court.
Certains, oui, mais là on parle de ceux qui consomment, donc je vais parler d'eux. Souvent ils vont arrêter d'eux-mêmes et assez tôt en fait.
En tout cas, nous arrivons donc déjà au terme de l'émission Faut qu'on en parle, qui était aujourd'hui consacrée donc à la lutte contre les conduites addictives et les trafics de stupéfiants impliquant des mineurs, et plus précisément donc tout ce qui est les risques, hein, que ça représente, notamment le risque pour la santé, le risque routier ou pénal. Je tiens à remercier très sincèrement notre professionnel, donc Bernard Bertrand, coordinateur général Vaucluse à l'association Arca Sud, pour avoir décrypté avec nous les conséquences sur la santé, les risques routiers et les implications pénales, qui ne sont donc pas des fatalités, mais des réalités. Mais surtout, un grand merci aussi aux jeunes qui nous ont accompagnés, notamment pour cette deuxième partie d'émission, c'était Noam, Benjamin et Naïm. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir donné vos témoignages et votre franchise. Rappelons aussi que cette émission a été réalisée dans le cadre du programme Limits, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants, un projet sélectionné suite à l'appel de la 1000DK, lancé donc en 2024 et pour lequel la COV et la ville de Carpentras ont été retenus. L'objectif donc de Limits, c'est d'accompagner des actions de prévention concrètes pour les jeunes et leurs familles. Merci aussi aux partenaires de ce projet, Arca Sud, étape 84, la mission locale, les centres sociaux Ville-Marie et Loutricadou et l'association Dune, ainsi que la COV. Merci aussi à tous les acteurs mobilisés. C'était votre émission Faut qu'on en parle, et à très vite sur nos ondes. Au revoir.
C'était Faut qu'on en parle, une émission réalisée en partenariat avec la COV et la ville de Carpentras, dans le cadre du programme Limits, limiter l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants, et à réécouter dès maintenant en podcast sur notre site www.rtvfm.net.